Documentaire, reportage.
Un podcast proposé par Regards Protestants.
Alors, c'est-à-dire qu'on glorifie le Seigneur, en même temps on met à l'épreuve son compagnon, et en même temps on montre qu'on est plus fort que lui, et au bout du compte, on est tellement content d'avoir réussi tout ça que quand on a fini de chanter, on pleure.
Donc aujourd'hui, nous allons parler avec Bernard Lorta-Jacob de chants de passion, puisqu'on est dans le temps de la passion, et il y a une tradition particulière en Sardaigne de chants absolument remarquables, de chants polyphoniques, qui sont donnés pendant la semaine de la passion. Et nous avons pour parler de cela le spécialiste de la question, qui est Bernard Lorta-Jacob, qui est ethnomusicologue. Et donc, qu'est-ce que d'abord ces chants de Sardaigne ont de particulièrement intéressant, parce qu'on a tous en tête les chants corses, par exemple, on voit à peu près ce que c'est. Pourquoi cet intérêt particulier pour ces chants de Castelsardo ?
Alors le chant, tout de suite, je vous le dis tout de suite, c'est à la fois un plaisir immense que tout le monde cherche. Et du point de vue des confrères, quand ils sont un peu rigoureux par rapport à leur pratique, c'est un sacrifice. Et on est choisi par le prieur pour chanter et on doit souffrir en chantant. Alors il y a toujours cette espèce de dolorisme. C'est de sorte que... souffrir parce que le chant est dur. Il faut chanter très fort, il faut chanter très longtemps. La procession dure 3 heures le soir. Et le risque qu'il comprend, c'est qu'on est en Méditerranée, les rapports de tension entre les êtres et les hommes est très fort. Et donc on risque de casser sa voix. Et un des plaisirs très subtils et très méchants, en fait, auxquels se livrent les gens, c'est de faire en sorte de passer le chant un peu haut, par exemple, ça se chante à 4, pour que le compagnon de chant abîme sa voix et ne puisse plus chanter. La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on chante naturellement par plaisir, mais on chante aussi parce qu'on a été nommé par le prieur de la confrérie pour porter la Semaine Sainte vocalement, notamment ce fameux lundi saint qui est le premier jour de la Semaine Sainte. Et les chanteurs sont choisis, et ils sont choisis en fonction de la beauté de leur voix, bien sûr, mais surtout en fonction de leur mérite. Donc en somme, c'est une récompense, c'est une grâce, le chanter, c'est une grâce accordée par le prieur pour avoir le droit de porter sur ses épaules le rituel de la passion. Il y a une partie de la confrérie composée d'une centaine de personnes, ça dépend, puis il y a ceux qui fréquentent, ceux qui fréquentent moins, et là-dedans, il y a eu un quart à peu près, une vingtaine de chanteurs à peu près, qui sont chanteurs. De ces 20 chanteurs qui restent, le prieur a toute l'année pour préparer son choix, et il a sa liste, et il va dire qu'il a choisi tel chanteur, tel chanteur, tel chanteur. Il en choisit 12. Il y en a 8 qui sont naturellement offensés, et donc la guerre commence, ou elle se finit. En tout cas, voilà, le cycle de choix est effectué. Ce numerus clausus est essentiel, parce que c'est tout le système de grâce, de reconnaissance. Et une fois qu'on est chanteur, on doit porter soi-même, de même qu'on porte des mystères, qui sont donc les outils de la passion, on va porter le chant qui va accompagner. C'est bien parce que l'histoire de porter, la portée de voix, portata, on porte le chant de même qu'on porte les outils de la passion. Alors cette intensité des rapports, elle se manifeste partout parce qu'une fois qu'on est chanteur, on a une envie, c'est de chanter avec un chanteur ou un autre chanteur pour faire un chœur. Mais comme ce n'est pas vous qui faites vos chœurs, c'est le prieur qui fait les chœurs, donc on s'aperçoit bien que le chant n'est pas un moment de liberté où chacun va s'exprimer, mais c'est une contrainte portée dans une hiérarchie très sérieuse où le pouvoir est là et porté et transmis par le prieur. Alors le prieur est celui qui vient donner le droit au chanteur d'être chanteur, et le prieur est lui-même en rapport très étroit avec l'Église, parce que au moment où on porte les saints dans les différentes fêtes de l'année, le prieur est toujours à côté du curé et à côté de l'effigie du saint. Donc on voit bien que Le prieur est une représentation très directe du pouvoir ecclésiastique qui s'exerce et qui l'exerce lui-même sur les confrères. Le curé, quand il, au moment où il y a des répétitions, le curé leur dit « Mais écoutez, vous stabat mater dolorosa, vous faites stabat, dolo, il faut dire dolo, il ne faut pas dire da, curé. Stai tranquille, fais ton affaire de messe, c'est nous les chanteurs, on chante comme on veut. » Quant aux paroles, les gens sont une coloration. Quand on stabat mater dolorosa, on comprend bien que c'est une mère qui est endolorie. Et naturellement, suffisamment son histoire religieuse pour savoir de quelle mère il s'agit. Mais une résonance d'une mère qui souffre, excusez-moi, mais pour quelqu'un normal, ça fait pleurer très facilement. Donc au bout du compte, il suffit de connaître vaguement de quoi ça cause, et après de donner un impulse dramatique, émotionnel, des chants de lamentation, cruels, durs.
Et donc il y a un rapport à la mort là-dedans, et qu'est-ce qui se dégage d'après vous de cette musique, de ce que ces gens pensent de la mort ?
Alors les confrères sont en effet des spécialistes de la mort, puisque les confrères, la confrérie qu'a cette ordre, enterrent tous les morts. Ils enterrent tous les morts. Il n'y a pas un mort de Castelsardo qui ne soit pas accompagné de chants. Mmh. Voyez, tous les gens qui sont à Castelsardo seront accompagnés par les chanteurs. En procession ouverte, alors cette fois-ci, jusqu'au Campo Santo, jusqu'au cimetière qui est à 2 km de la ville et en procession. À Castelsardo, quand la société est en forme, tout le monde s'engueule tout le temps. C'est vraiment une pétaudière incroyable. Et c'est pour ça que j'ai adoré ce village, parce que c'est formidable. C'est d'une densité, il y a des stratégies, il y a des stratégies obliques pour déstabiliser les gens. Enfin, c'est extraordinaire. C'est très amusant, quoi. Les gens vivent de ça. Mais alors, quand arrive le fameux lundi saint, là, où il faut chanter, tout le monde, c'est la paix.
Ouais, c'est la réconciliation.
La réconciliation complète. Il n'y a plus aucun antagonisme. Tout le monde va chanter avec tout le monde. On a tout oublié, on met... Et le mardi, le lendemain, ça repartit pour un tour, pour 364 jours. Donc vous voyez, il y a aussi ce côté, on règle les conflits par le chant, par cette fête magnifique du lundi. Et voilà, donc au moins ce chant a cette fonction.
Alors, à écouter ces musiques, ce qui frappe à la première écoute, c'est que c'est une musique harmonique, c'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression en tout cas que tout est dans l'harmonie. Alors, comment se passe cette harmonie de ces chants en sardes? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est aussi simple qu'il y paraît, ou est-ce qu'il y a des choses, des complexités qui ne sont pas évidentes?
L'harmonie, elle est naturellement recherchée. Et en même temps, c'est un peu plus compliqué encore, parce que les hommes étant ce qu'ils sont, les hommes étant plutôt un peu des mecs, vous voyez, ils veulent dominer, un chanteur veut dominer l'autre, il veut montrer qu'il est meilleur, et il ne veut pas non plus trop le faire, parce que ça se verrait trop, on dirait, écoute, tu es responsable de ton cœur, tu ne peux pas casser le cœur, si tu casses le cœur, vraiment c'est indigne. Alors, il faut jouer là-dessus, il faut jouer, chanter très fort pour essayer de rendre l'autre aphone, ou en tout cas insuffisant. Mais pas trop, parce que si le cœur se casse la figure, vous cassez la figure, puisque vous faites partie du cœur. C'est pas une chorale, vous voyez. Alors, étranger totalement à l'esprit des chants de Castelsardo et de toute la Sardaigne d'ailleurs, c'est le chef d'orchestre. Zéro chef d'orchestre. Il y a zéro diapason. Alors, ça, c'est très important. Parce que celui qui entonne le chant, il va embarquer tous ses compagnons dans une tonalité. Là-dessus, il faut que tout le monde se cale. S'il le met un tout petit peu plus haut, il sait que ça peut être plus brillant, plus efficace, mais il peut gêner la voix du dessus parce qu'il va être obligé de monter trop haut. Après, là-dessus, il faut entre beaucoup de considérations, comme l'acoustique du lieu, la fatigue des chanteurs, combien de temps on va chanter, 10 minutes ou toute une soirée, c'est pas tout pareil, il faut ménager les voix. Donc il y a un art de ce qu'on appelle la chiave, c'est-à-dire la hauteur d'intonation, qui est un art archi-consommé. Il y a des chanteurs qui sont remarquables parce qu'ils sentent ça tout de suite et ils mettent exactement là où il faut. Mais quand on dit ça, il ne faut pas croire que ça porte sur une tierce, une quarte. C'est un demi-ton. Hein. Mmh. En clair, ce n'est pas du tout une oreille absolue, c'est une oreille relative extraordinairement fine, qui est la meilleure oreille d'ailleurs, comme vous savez.
Oui, oui.
Alors, c'est la plus souple. Quoi.
Donc, oui, Bernard Lorta-Jacob, merci pour ces chants de la passion. Mais donc, vous avez intitulé votre livre « Chant de passion » tout court. Donc, est-ce qu'il s'agit de la passion du Christ ou est-ce que ça peut être d'autres passions ?
Les deux, parce qu'en effet, il y a une conjonction remarquable. Le français le permet. Hein. C'est la passion des hommes et c'est la passion, naturellement, la grande passion. Parce que ces hommes sont passionnés par ce qu'ils font. Mm-hmm. Et naturellement, ils chantent les chants de la passion du Christ. Et c'est étonnant de savoir comment ces chants religieux deviennent des enjeux sociaux majeurs, c'est-à-dire de compétition, football, vous voyez, des choses aussi où il s'agit d'humilier l'autre, il s'agit de montrer qu'on est meilleur, d'intriguer pour que la famille fasse que vous chantiez alors que l'autre ne veut pas vous chanter avec vous, enfin tout ce qui fait la beauté d'une société. Donc c'est une passion humaine qui est au service d'une passion, la vraie passion, celle du Christ.
Vous voulez dire, alors ça c'est une image théologique qui me plaît assez, c'est-à-dire qu'en fait on a un résultat angélique et divin, et si on creuse derrière, en fait il y a des tas de choses très humaines.
Finalement.
Oui, mais alors j'irai plus loin que vous d'une certaine façon, quitte à vous déborder sur la gauche, si je puis dire, en disant que c'est parce qu'il y a une espèce de grande tension sociale que le chant arrive à avoir cette densité. Si les gens, et ça je le sens, c'est des choses qui se sont, parce que je connais comme bien cette société, quand les gens s'ennuient, qu'il ne se passe pas grand-chose, qu'il n'y a pas de tension entre eux, le chant devient ennuyeux, il devient une espèce de chorale, Mademoiselle Le Lombec, comme disait l'autre, vous voyez, et un peu sans force. En revanche, quand on sait qu'un tel va chanter, qu'en face, dans l'autre cœur, il va y avoir alors la femme du prieur, par exemple, va voir son fils, alors elle va lui apporter, dans la procession, elle va lui apporter de l'eau, etc. Il y a un côté, si vous voulez, course de cheval, hein, ou de chevaux, comme on dit. Alors il y a cette dimension passionnelle, alors au sens, alors, cette fois-ci, le plus vulgaire ou le plus social possible. Donc c'est à la fois la passion du Christ, la passion des hommes, et puis... Et tout ça passe à travers le chant. Donc tout ça est à la fois pur et impur. Vous voyez, le profane et le religieux sont tout à fait associés et très solidement mariés.
Merci Bernard Lorta-Jacob de m'avoir fait découvrir cette musique formidable de ces chants sardes. J'en garderai une chose, c'est effectivement cette passion des hommes qui arrive à chanter la passion du Christ pour l'amener à une harmonie pleine de beauté et une beauté dynamique, c'est-à-dire que ce n'est pas une beauté ennuyeuse, ce n'est pas une beauté plate, c'est une beauté absolument incroyable et sublime.
C'est surtout une beauté qui se construit, socialement. Ouais. Mais il vous reste à y aller, mon cher.
Allons-y.
C'était Documentaire Reportage,
un podcast de Regards Protestants.